La dernière fois, nous nous étions arrêtés en compagnie d'Henri le navigateur le long de ces côtes africaines. Nous avions laissé Henri, ce prince du Portugal, dans son château de Sagres, tout à fait au bout de la péninsule ibérique, c'est-à-dire au bout du Portugal, du côté atlantique, enfermé dans son château où il va mourir en 1460. Et c'est là que vont partir les marins les plus intrépides depuis le port de Lagos, depuis Sagres, vers le sud. Nous allons passer le cap Borrador, dont on parlera tout à l'heure, un cap pratiquement infranchissable dans la tête des Portugais. Et grâce au roi suivant, à Jean II par exemple, ou à Manuel, nous allons accompagner le plus grand, le plus connu peut-être des marins portugais, Vasco de Gama, qui va détourner, contourner ce continent africain pour découvrir une fois pour toutes les Indes par la mer. Je vous avais dit aussi la dernière fois qu'il fallait prendre une carte de l'Afrique pour s'y retrouver. Je parlais du cap Borrador. Essayez de le trouver sur cette carte. Borrador, en portugais, ça veut dire renflement. Il se trouve sur la côte ouest, juste au sud des îles Canaries. En fait, on est à pratiquement 1500 km au nord de la véritable saillie du continent vers l'ouest, vers l'Atlantique. C'est-à-dire que ça n'est pas un cap infranchissable quand on voit l'ensemble de l'Afrique. Quand on approche de l'endroit, on trouve une barrière avec du sable, enfin une barrière extrêmement basse. On aperçoit, c'est vrai aussi, des récifs, il y a des courants extrêmement dangereux. Mais je crois que ce cap n'était pas plus redoutable, pas plus difficile à passer que toutes les barrières que les marins portugais avaient déjà passées jusque-là le long des côtes de cette Afrique. Donc pour eux, c'était simplement un cap qui était le nec plus ultra, la fin du monde, la fin de leur monde marin. Alors, si je reprends pratiquement le siècle qui va suivre. On va passer le cap de Bonne-Espérance. Ce n'est pas un cap très facile. On va le faire aujourd'hui, d'ailleurs. Il y aura le cap Horn, qui est un cap qui fait encore beaucoup plus rêver les navigateurs, même aujourd'hui. On va franchir ça sur un siècle, mais Borrador, c'était autre chose. C'était simplement pour moi ce que j'appellerais une barrière mentale. C'était le prototype même de ces obstacles qui empêchent d'aller plus loin dans l'exploration. Alors, notre prince Henri, lui, il est resté à Sagres, il y est toujours, et il voit cela de manière mentale, bien sûr, mais c'est quelqu'un d'intelligent, c'est lui qui conduit l'affaire portugaise, la marine portugaise. Donc il veut absolument vaincre cette barrière physique, et il voulait d'abord faire perdre à ses marins cette peur de la mer. Et en 10 ans, il va envoyer 15 expéditions successives, c'est-à-dire entre 1424 et 1434, 15 expéditions qui vont tenter de passer ce cap. Mais chaque fois qu'ils arrivaient devant cet endroit de légende, les marins nous décrivent cela. Ils nous disent que la mer commençait à bondir de toutes parts, qu'il y avait des tempêtes et des vagues curieuses, qu'ils avaient remarqué sur les côtes que des cascades de sable rouge tombaient, descendaient, dévalaient des falaises, car il y a des falaises énormes dans cet endroit, que sur les hauts fonds, il y avait des bancs de poissons qui troublaient des eaux qui elles-mêmes étaient gênées par des tourbillons. Enfin, tout ce qui était possible pour les arrêter, ils l'inventaient même s'il le fallait. C'est-à-dire cette côte, pour eux, était quelque chose de terrible. C'est vrai qu'il n'y a aucun signe de vie à la hauteur de ce cap. Pour eux, c'était vraiment la fin du monde. Et c'est Gilles et Hannes qui va déclarer en 1433, à la fin de ces 10 ans d'expédition, que ce cap est véritablement infranchissable. Alors là, Henri le navigateur se fâche. Il va renvoyer ce même marin et en 1434, ce sera la bonne foi. Pourquoi ? Parce que en approchant de ce fameux promontoire, involontairement, ce marin va virer vers l'ouest. Et il va préférer en fait affronter pour la première fois les périples de l'océan plutôt que ceux du rivage. C'est aussi un changement de pensée. Vous voyez à quel point tout à coup, même s'ils avaient déjà trouvé certaines îles, même si on est allé jusqu'aux Açores, mais cette idée de contourner l'Afrique en allant vers l'extérieur de l'Afrique, c'est vraiment l'idée de base. Donc involontairement, tout à coup, ils auront dépassé ces portes de l'enfer, ils se retrouveront de l'autre côté. Alors, maintenant que ce mur de la crainte a été brisé, Henri, le navigateur, va pouvoir réaliser ses principaux objectifs. Chaque année, il va envoyer de nouvelles expéditions et chaque année, il ira un peu plus loin. Aller plus loin pour son époque, c'était découvrir tout ce que vous connaissez encore, le Rio de Oro. Pourquoi l'avoir appelé ainsi ? Parce qu'ils pensaient déjà que c'était le Sénégal. Ils espéraient déjà trouver ce troc assez curieux, ce commerce muet qui avait lieu beaucoup plus bas, puisqu'en fait, il fallait encore faire 800 kilomètres avant d'y arriver. Puis ensuite, il y aura le Cap Blanc. Alors là, je vais vous donner un petit exemple très important pour l'Europe, déterminant même pour la suite des événements. Car à ce Cap Blanc, ce même Hannes que nous avons rencontré tout à l'heure va ramener pour la première fois au Portugal, à Lagos pour être précis, une cargaison humaine. 200 esclaves africains vont arriver au Portugal. Alors ça c'est quelque chose qui est important parce que ça préfigure déjà cette traite des Noirs qui sera bien portugaise et qui sera surtout valable tout au long de cette côte et qui ensuite partira vers les Amériques, bien sûr. Mais cette traite des Noirs qui préfigure ce que j'appellerais aussi les horreurs à venir, elle est assez curieuse parce que quand on lit les chroniqueurs portugais, on se rend compte que les esclaves étaient traités avec beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire qu'ils disaient qu'il n'y avait aucune différence entre eux et les domestiques locaux, les domestiques portugais. Et qu'ils étaient libres de naissance comme un simple domestique et qu'en fin de compte, ils pouvaient vivre, même éventuellement épouser des portugaises. C'est important de le savoir parce que cette différence nous explique aussi la fonction social pratiquement du Portugal dans le monde après ces événements. Or, l'esclavage ne sera pas toujours traité de la même manière selon le pays ou le colon que l'on retrouvera. Alors, cette arrivée de marchandises un peu curieuse, cette marchandise humaine, ces esclaves venus d'Afrique va provoquer quelque chose d'assez bizarre aussi au Portugal. C'est véritablement un revirement d'opinion à l'égard de notre prince Henri. Parce que on avait pensé qu'il était en train de gaspiller des fonds publics inutilement dans des équipées qui ne servaient à rien. Et c'est à partir de là qu'on va l'appeler le nouvel Alexandre. C'est seulement quand il commence à rapporter de l'argent et surtout des esclaves qu'il sera pris au sérieux. Chacun voulait sa part de ce nouveau commerce qui allait devenir peut-être le plus prometteur de tous, malgré les marchandises et les choses qu'on va commencer à découvrir lorsqu'on sera descendu beaucoup plus bas en Afrique. Et lorsqu'on va doubler le Cap Vert, puisqu'on continue sur notre carte, qui est vraiment l'extrême ouest de l'Afrique, on va passer justement de l'aridité à la zone tropicale. Ça, c'est le grand changement. Lorsqu'on a passé ce cap, obligatoirement, le commerce portugais va pouvoir commencer de façon plus lucrative. C'est-à-dire qu'on va finalement envoyer 20 ou 30 caravelles par année vers le sud. Et c'est un marin très important aussi, c'est une sorte de précurseur italien, c'est un Vénitien qui s'appelle Cadamostro, qui va, comme Colomb, comme Vespucci, comme Cabot aussi, servir bien sûr un prince étranger puisqu'il est au Portugal, qui va découvrir par hasard ces îles du Cap-Vert qui n'existaient pas encore sur la carte du monde. Et puis il va remonter surtout le fleuve Sénégal, maintenant nous sommes assez au sud, il va découvrir la Gambie, c'est-à-dire remonter sur plus d'une centaine de kilomètres à l'intérieur du continent. Alors il va faire des descriptions extraordinaires, il va parler des coutumes tribales bien sûr, mais il va surtout parler de la flore tropicale, c'est la première fois qu'on vit sous les tropiques. Il va parler des éléphants, il va parler des hippopotames, il va véritablement donner l'envie aux autres marins de suivre sa trace. Et lorsque Henri le Navigateur, je l'ai dit tout à l'heure, meurt à Sagres en 1460, l'exploration de ce littoral ouest africain n'est peut-être qu'à ses débuts, mais alors quel début ? C'est là qu'on voit qu'on est vraiment rentré dans la partie charnue de l'Afrique. On a quand même trouvé un os, on a quelque chose à ronger, maintenant les Portugais auront envie d'aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça enfin que aujourd'hui, on peut considérer Henri le Navigateur comme le véritable inventeur de la découverte organisée. Ça, je crois qu'on a vu, c'est vraiment le changement essentiel que va apporter le Portugal au monde européen. Et pour la première fois, chaque nouveau pas vers l'inconnu devient une nouvelle invitation aussi. C'est-à-dire que pour la première fois, on a systématiquement envie d'aller plus loin et de ramener quelque chose de plus loin. Sa disparition, bon, elle va provoquer peut-être une petite interruption de cette exploration, mais c'est déjà en 1469, moins d'une dizaine d'années après, que Alphonse V, qui est en fait le neveu d'Henri, lui, il avait des difficultés financières. Voilà encore un cas très intéressant. Et ça, vous allez voir à quel point, tout à coup, il y a des choses qui se présentent à l'aube de ce XVIe siècle, quelques années avant ce XVIe siècle. Il y a des choses intéressantes. Vous avez des problèmes financiers, vous cherchez une affaire lucrative. Eh bien, ce prince va créer un contrat de type tout à fait nouveau avec son vassal, qui est un certain Gomes, qui est un citoyen extrêmement riche, qui vivait à Lisbonne. Et ce citoyen va s'engager à découvrir au moins 100 nouveaux lieux, c'est une distance importante, hein, 100 nouveaux lieux chaque année. Eh bien, ça fait à peu près 400 kilomètres de côte chaque année, et ceci pendant 5 ans. C'est un contrat, mais en contrepartie, il obtient le monopole de tout le commerce avec la Guinée, et il va en verser naturellement une part importante au roi. Donc c'est la première fois qu'on fait un contrat entre quelqu'un qu'on envoie comme un voyageur de commerce, duquel on va retirer, si vous voulez, un bénéfice ou une commission. Ça c'est aussi nouveau, puisque les Espagnols vont utiliser le même système avec leurs grands découvreurs du côté américain. Alors ce contrat... C'est peut-être parce qu'il y a un contrat, justement, qu'on va avoir une série impressionnante de découvertes en quelques mois. Parce que notre Gomes, il va permettre qu'on traverse l'équateur. C'est chose faite maintenant, voilà, un cap important. Il va progresser pratiquement en 5 ans, tout autant qu'en 30 ans, on l'avait fait auparavant avec Henri le Navigateur. C'est-à-dire qu'il va vraiment multiplier par 6 les distances et l'avancée sur l'Afrique. Et à la fin de son contrat, il va remettre Enfin, c'est le roi qui va accorder des droits commerciaux à son fils, Jean. Et Jean II, le nouveau roi du Portugal, en 1481, va ouvrir vraiment l'époque de l'exploration portugaise comme telle. C'est-à-dire qu'il va... Il va disposer de certains atouts, vous l'avez compris, avec ce système précédent. Les caisses, maintenant, se sont petit à petit remplies. Le trésor royal s'est enrichi par toutes ces importations de la côte ouest africaine. Il y a le poivre, il y a l'ivoire, il ne faut pas l'oublier, il y a l'or, bien sûr, mais il y avait ses esclaves aussi. C'était devenu tellement important que, vous reprenez la carte de l'Afrique, vous verrez qu'on va donner, justement, à toutes ces régions leur nom selon leur production. Alors, pendant des siècles, on va appeler, par exemple, Côte de la Graine. Pourquoi de la Graine ? Mais parce que simplement, en Guinée, on disait Graine de Paradis lorsqu'on parlait du poivre. Si vous descendez un peu plus loin, vous avez la Côte d'Ivoire, qui a gardé encore son nom. Si vous allez plus loin, vous avez la Côte de l'Or, et ensuite la Côte des Esclaves. Donc, c'était en fait pour marquer ces endroits de production que les noms vont être donnés et vont être conservés si longtemps jusqu'à nos jours. Et puis, si on remarque aussi un détail... C'était pour protéger tous ces comptoirs que les Portugais, et particulièrement Jean II, va faire construire au cœur même de cette Côte de l'Or, la grande forteresse la plus connue de l'époque, celle de la mina. Et à partir de là, on va pouvoir organiser des expéditions terrestres à l'intérieur du continent. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'en Sierra Leone, on va aller jusqu'à Tombouctou. Ça n'est pas rien, hein, lorsqu'on voit la distance que ça représente sur la carte africaine. Et on poussera toujours plus loin vers le sud. Le marin qui avait passé cet équateur fatidique était un peu perdu. Ça, je crois que c'est une chose dont on a déjà parlé une fois, c'est cette perte surtout de l'étoile polaire. Donc, il n'y aura plus moyen de déterminer sa latitude. Il faudra trouver autre chose. Pour résoudre ce problème, c'est Jean II qui va refaire un peu ce qu'avait fait Henri. C'est-à-dire qu'il va de nouveau réunir des spécialistes, créer une sorte de commission, et à sa tête, il va placer, je suis obligé de les citer, parce que ce sont des gens tellement importants, ce sont des mathématiciens, ce sont des astrologues, mais ce sont des juifs qui auront des conséquences extrêmement bénéfiques pour les Portugais. Alors, pourquoi avoir réussi à obtenir ce Sacuto et ce Vinsugno? Eh bien, simplement grâce à l'Espagne. Que s'est-il passé entre la mort d'Henri le Navigateur et le moment où je vous parle, c'est-à-dire le moment historique que nous vivons? Eh bien, il y a eu 1492. Il y a eu la prise de Grenade. Il y a eu le fait que, tout à coup, l'inquisiteur général d'Espagne, Torquemada, va donner aux Juifs 3 mois pour se convertir au christianisme ou alors s'expatrier. Donc, nos Juifs d'Espagne vont s'expatrier, c'est vrai. Sacuto, il va même quitter l'université de Salamanque pour se réfugier au Portugal. Et son disciple, Vinsillo, l'avait déjà précédé quelques années plus tôt, et c'est à eux que va être laissé ce problème des latitudes et des calculs. C'est eux qui vont inventer tout ce qu'il faut pour comprendre le sud, l'extrême sud. C'est-à-dire qu'il y aura cet ouvrage extraordinaire qui va être mis au point par Sacuto. C'est un ouvrage qui s'appelle l'Almanach perpétuel, qui est écrit en hébreu. Et il l'avait déjà écrit 20 ans plus tôt. Avec cela, on va pouvoir traiter des tables de déclinaison. Enfin bon, tout cela sont des problèmes techniques, mais avec de nouvelles visées solaires, on va résoudre le problème de ce qui se trouve en dessous de l'équateur. Et maintenant, ben, on continue sur cette côte africaine. Kao va atteindre l'embouchure du Congo. Là, nous sommes à la fin des années 80. On va inaugurer l'usage de ces pierres. Ah, ça, c'est une chose très, très importante. Les Portugais vont inaugurer, vous savez, quand on créait un nouveau comptoir, ou qu'on avait passé un nouveau cap, ou qu'on avait touché un nouvel endroit, on mettait des padroès. Les padroès, ce sont des bornes de pierre qui sont surmontées d'une croix. Elles étaient simplement destinées à affirmer le droit du Portugal sur toutes les terres nouvelles qui étaient découvertes, et surtout témoigner de la présence chrétienne. Une chose qui sera reprise un peu par tous les nouveaux colons, par ceux qui vont suivre les Portugais. Et archéologiquement parlant, puisque c'est un peu mon travail, c'est ce qu'il y a de fascinant, c'est qu'on arrive pratiquement avec le nom des saints, et en même temps avec ses bornes, à suivre carrément le cheminement de ces Portugais. Et pourquoi le nom des saints? Eh bien parce qu'en général, chaque fois qu'on arrivait dans un nouvel endroit, on regardait le calendrier et on donnait le saint du jour. Donc on arrive souvent à trouver la chronologie du voyage, et en même temps, archéologiquement, le lieu grâce à ces ruines de croix et de bornes de pierre. Bon, ça c'était une petite digression, mais nous sommes maintenant à la fin de ces années 80, et le roi du Portugal va mettre une véritable stratégie, même une double stratégie au point. C'est-à-dire qu'il veut envoyer 2 expéditions importantes à la recherche de l'Asie. La première sera une expédition transcontinentale qui va partir vers le sud, vers l'est pour être plus précis. Et puis l'autre, bien, elle va carrément tenter de contourner l'Afrique par la mer. Donc 2 choses totalement différentes. Alors quand je parle d'une expédition terrestre, je suis bien gentil parce qu'en fait il n'y avait que 2 personnes qui vont être envoyées. Un certain Covilha et un certain Paiva. Covilha, il est important parce que c'est quelqu'un qui a une 30aine d'années, qui a déjà fait tous les coups possibles et imaginables dans sa vie. On l'a rencontré à Séville, il a été agent secret du roi à la cour de Ferdinand et d'Isabelle. Il a eu des missions diplomatiques en Afrique du Nord, donc il parle l'arabe. Et il a eu des missions un peu partout, jusqu'à Fès. Enfin bon, c'est quelqu'un qui est vraiment préparé à voyager dans le monde musulman et qui va pouvoir le faire sans éveiller aucun soupçon. Et c'est très important. Et nous allons voir à quel point c'est important. C'est quelqu'un qui va faire un voyage extraordinaire. C'est un nouveau Marco Polo dont nous allons parler maintenant. Alors, il connaissait toutes les langues susceptibles d'être parlées par les chrétiens, ça vous l'avez compris, mais également par tous les païens qu'il allait rencontrer, y compris les morts. Alors, il est doté. Moi, je crois que c'est quelqu'un surtout qui a un sens de l'observation extraordinaire. Il a une mémoire fantastique. Son compagnon, on en parlera peut-être un peu moins, parce que Païva, bon, on sait que c'est un gentilhomme de la cour, qui parlait bien, lui aussi, l'espagnol et l'arabe, mais c'est quelqu'un qu'on va perdre en route. Alors, partons déjà de Barcelone, ils s'embarquent, ils arrivent à Naples, vous continuez la route jusqu'à l'île de Rhodes, et là, vous êtes vraiment au seuil du monde islamique, puisque c'est vraiment la porte, c'est cette actualité islamique qui va fermer la route de l'Orient. Mais, quand vous êtes là, à Rhodes, vous savez aussi qu'il y a un tas d'agents commerciaux qui sont venus de Venise, qui sont venus de Gênes, et qui savent pertinemment que vous êtes des rivaux. Donc il faut également se cacher aux autres Européens. C'est assez difficile. Donc le mieux, c'est de se transformer en marchand, plus exactement en marchand arabe, en disant que vous allez vendre des produits, je sais pas, une cargaison de miel, enfin tout ce qui vous fait plaisir. Et c'est sous cet accoutrement, en faux marchand arabe, que nos Portugais vont descendre jusqu'à Alexandrie. Alors, bon, vous êtes à Alexandrie, vous êtes en Égypte, là ils vont tomber malades, ils vont arriver au Caire, ensuite ils vont aller jusqu'à Adan, ils vont entrer en fait le long de cette mer Rouge, ils vont pénétrer le long de cette mer Rouge, mais ils vont se séparer surtout, et je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va aller directement en Éthiopie, parce qu'on l'a envoyé auprès du prêtre Jean, et puis l'autre, il poursuit sa route et il doit aller jusqu'aux Indes. Donc Païva va disparaître à partir de là, parce qu'il n'atteindra certainement jamais l'Éthiopie. Mais Covilhã, on connaît la suite de l'histoire. On sait qu'il est allé jusqu'à Calicut, et puis qu'ensuite il est allé à Goa, et qu'il a longé la côte ouest de l'Inde, et que là, il a remarqué qu'il y avait un commerce extrêmement fructueux, où on vendait des chevaux arabes, qu'on y retrouvait toutes les épices dont on avait besoin, des cotonnades, des pierres précieuses. Et... c'est à la fin de ces années 80 qu'il va revenir en bateau, qu'il va revenir à Ormuz. Il ne prendra rien avec lui, aucune marchandise, mais il va réussir à toucher pour la première fois la côte est de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il va aller jusqu'à Sofala, juste en face de Madagascar, et qu'à partir de là, il va remonter jusqu'au Caire. Donc il avait pratiquement rempli sa mission, et il était surtout très content de pouvoir rentrer. Mais au Caire, il reçoit deux émissaires juifs qui avaient été envoyés par notre roi Jean, avec une lettre, et là, on lui ordonne qu'il doit continuer ce que son collègue n'a pu faire. C'est-à-dire qu'il est obligé d'aller voir le prêtre Jean, enfin ce pays un peu miraculeux, un peu bizarre, un peu légendaire, afin d'obtenir des informations et surtout essayer d'avoir une alliance. Pourquoi ? Parce qu'on cherche des chrétiens en Afrique en se disant « si nous avons un royaume chrétien en Afrique, on est sauvé, on va pouvoir maintenir ce continent sous notre férule ». Ça, c'est l'idée de base. Alors, il va se remettre en chemin et il va adresser, avant cela, et je crois que c'est important, une lettre à son roi, dans laquelle il va décrire tout ce qu'il a vu. Et il va surtout parler de la navigation arabe dans l'océan Indien. Il va parler du commerce avec les Indes. Et en 1493, après un crochet, il est allé se balader jusqu'à la Mecque. Et 6 ans après son départ du Portugal, il va enfin arriver en Éthiopie. Et ce royaume du prêtre Jean, bon, c'était pas Jean qui le gouvernait, c'était un certain Alexandre. Vous connaissez l'histoire, bien sûr, puisque... on vient de terminer l'histoire éthiopienne sous la forme de la tribu de Juda. Ce lion, ce roi des rois, ce Négus, existait déjà à cette époque. Et il va alors à ce moment-là devenir le véritable Marco Polo portugais, puisqu'il va s'installer à la cour du roi des rois Alexandre en Éthiopie. Il va être tellement utile que le roi va refuser de se séparer de lui. Bah, lui, comme il pense qu'il verra, il ne pourra jamais retourner au Portugal, il décide d'épouser une Éthiopienne et puis là, il aura plusieurs enfants. Alors, entre-temps, la lettre dont je vous parlais, cette lettre qui avait été envoyée à son roi au Portugal, était parvenue. Bon, on n'a aucune nouvelle historiquement parlant de cette lettre, on n'a pas aucune traduction réelle. Mais ce qu'on sait, c'est que cette lettre a complètement bouleversé le destin du Portugal et le destin de l'Asie. Pourquoi ? Parce que cette lettre informait surtout le roi qu'il avait entendu dire, si vous voulez, que la côte africaine était possible pour les caravelles. C'est-à-dire que les caravelles portugaises pourraient faire du commerce avec la Guinée, ça s'était fait, mais s'ils continuaient à naviguer de terre en terre, ils finiraient bien par atteindre l'île de Madagascar que lui connaissait et d'arriver à Sofala où il était parvenu et donc pénétrer dans les mers orientales et gagner Calicut, c'est-à-dire arriver jusqu'aux Indes, tout ceci par la mer. C'est la première fois qu'on avait preuve à l'appui, la possibilité, grâce au navigateur arabe, grâce à cette connaissance de ce voyageur, le fait que l'Afrique n'était pas indétournable. On y avait pensé, mais personne ne l'avait totalement affirmé comme lui. Alors, obligatoirement, un nouveau volet de l'histoire va s'ouvrir à partir de cette nouvelle, à partir de cette lettre parvenue à la cour du Portugal. Alors maintenant, je vous ai résumé un peu la façon d'avoir découvert les Indes par la terre. Là, je parle des Portugais, parce que ça avait été fait bien avant, bien sûr. Et je vous ai dit que Jean II, en même temps, avait monté une expédition maritime. Et c'est celle que l'on va découvrir. C'est cette exploration qui est vraiment de type moderne, qui était fantastiquement bien préparée. Très longuement aussi, parce qu'il faudra des investissements énormes, il faudra des équipages importants. Et à sa tête de cette expédition, on va nommer Barthélemy Dias. Dias, c'est un des plus grands marins du monde. C'est un ancien intendant des magasins royaux de Lisbonne. Et il avait déjà, eu l'habitude de voguer avec des caravelles tout au long de ses côtes africaines. Et l'expédition qu'il prépare, que le roi lui ordonne, est une expédition qui va comprendre deux caravelles, bien chargé, mais surtout, pour la première fois dans l'histoire de l'exploration, ce qu'on appelle un vaisseau de conserve. C'est-à-dire une sorte de bateau de réserve qui sera chargé comme un réfrigérateur, comme une armoire. J'entends par là que c'est vraiment l'endroit où l'on va garder un maximum de provisions et on laissera systématiquement ce bateau en rade à un endroit donné de la côte, et quand il faudra, les autres pourront revenir pour se nourrir à nouveau. Ça, c'est une idée qui est toute bête, mais qui va permettre de donner aussi cette sorte de sécurité. Et il va partir, notre Dias, avec des Noirs aussi, avec des Africains. Il va emmener 6 Africains qu'il va habiller à l'occidental. On nous dit même à l'époque que ce sont des gens qui étaient bien nourris, donc on voit ces Noirs bien dodus, bien sympathiques, habillés à la mode fin 15e siècle, et on les a déposés à différents endroits de la côte africaine avec des échantillons, c'est-à-dire de l'or, un peu d'argent, des épices, enfin tous les produits africains. Et l'idée de Dias et de Jean II, c'était de recréer un peu cette idée, oui, justement, du commerce muet. Créer un nouveau commerce muet par ces Noirs interposés en disant voilà ce qu'on veut, voilà ce que les étrangers désirent, apportez ce produit, ils vous donneront leur produit contre. Et une fois qu'ils ont débarqué le dernier, malheureusement, il y a eu une tempête incroyable. Alors, regardez une fois de plus la carte, vous avez cet énorme renflement de l'Afrique, et là, tempête incroyable, Dias descend en direction du sud sans aucun contrôle, et une fois la tourmente passée, par logique, comme il s'est perdu dans le sud, il met le cap sur l'est. Et là, il va devoir voguer pendant plusieurs jours sans résultat. Ça va être atroce de ne plus savoir où l'on est. Vous mettez vos voiles sur l'est en sachant que vous devez retoucher le continent et puis rien. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous avez été plusieurs jours sur l'est. Finalement, Dias se dit après tout, il n'y a plus aucune solution. Je dois essayer de revenir en arrière, c'est-à-dire monter vers le nord. Et en montant vers le nord, il va encore naviguer très longtemps. Il va faire 150 lieues. Et là, tout à coup, ils aperçoivent des montagnes incroyables avec de la neige. Ça, c'est une chose fantastique. Parce que le 3 février 1488, ils vont arriver à Moselle. Et Moselle, c'est à 370 km à l'est du Cap. Ils ont contourné involontairement l'Afrique. Ils sont déjà sur la côte est. Continuons peut-être notre expédition, et plutôt, voyons comment nous allons revenir, parce que l'aventure, elle commence peut-être là. C'était déjà le cas pour Magellan, nous en avons parlé, même si c'est plus tard dans l'histoire. Chacune de ces grandes expéditions, celle-ci sera une des plus incroyables, parce que ensuite, nous sommes au Cap, nous voyons ces sommets, on va remonter vers le nord-est sur encore 500 kilomètres. C'est pas important de savoir qu'on arrive à Algoa. Ce qui est important, c'est qu'à partir de là, Dias est sûr qu'il va traverser l'océan Indien. Il a ses informations qui vont lui faire comprendre qu'il peut toucher les Indes. Donc il va réaliser enfin ce rêve incroyable de tous les Occidentaux. Mais ces hommes, ces marins ne veulent absolument rien entendre. Et là, les capitaines discutent et disent à l'amiral, enfin disent à Dias, écoutez, ça suffit, on a déjà une nouvelle importante, on peut déjà déclarer que l'Afrique est effectivement contournable par la mer, c'est pas mal, non ? On peut s'arrêter là et revenir. Et il doit s'incliner. Et c'est sur le chemin du retour qu'ils vont retrouver leur navire entrepôt qu'ils avaient abandonné. Mais ils l'avaient laissé 9 mois plus tôt. C'est incroyable. Rien que pour ce bout de voyage, il y a déjà 9 mois et il y a surtout 6 hommes à bord qui sont morts. Il n'était que 9 à conserver ce navire, à le surveiller. Il n'y a plus que 3 personnes lorsqu'ils arrivent. Et un des 3 a été tellement saisi de joie. Pensez où vous êtes perdu au sud de ce renflement africain, seul depuis des mois. Un des 3, simplement pour retrouver, par le fait d'avoir vu les deux caravelles revenir, bah, il en est mort de joie, le pauvre. Donc il ne reste plus que deux personnes à bord à l'instant où l'on repart vers le Portugal. Alors, c'est un bateau qui est complètement fichu, qu'on va devoir abandonner d'ailleurs. Il va être déchargé, il va être brûlé. Et les deux caravelles, qui elles ont bougé, hein, ont avancé, c'est beaucoup plus logique hein, qu'elles soient mieux conservées. Elles vont rentrer au Portugal en décembre 1488 et cela va faire 16 mois et 17 jours qu'ils sont partis. C'est énorme, simplement pour aller voir si l'Afrique est contournable. Ça, c'est l'aventure de Diaz. Bien sûr, dans ce port de Lisbonne, on les attendait, mais parmi les gens qui étaient là, il y avait un inconnu, c'est Christophe Colomb. Christophe Colomb, qui est très intéressé par les résultats de ce voyage, parce qu'il est là pour tenter encore une fois d'obtenir du roi Jean son soutien pour son expédition, son projet d'expédition vers les Indes, mais cette fois par l'Ouest. Bon, ben là, il a compris que ce triomphe de Diaz, ça allait être quelque chose de terrible pour lui. Il est totalement désenchanté. Enfin, on le sait en tout cas, parce que si on atteignait les Indes en contournant l'Afrique, bon, il n'y avait plus aucun intérêt à aller par l'Ouest. Et on sait qu'il a pris des notes dans son livre préféré, Imago Mundi, que j'ai observé à Séville, qui se trouve dans une bibliothèque, enfin, ce qu'on appelle la bibliothèque colombine, là, près de la cathédrale et de la Giralda. C'est là qu'il a noté qu'il était là, qu'il était présent lorsque Diaz a remis son rapport au souverain. Alors, on comprend ce côté amer, ce côté désabusé, mais si quelqu'un a pu être désabusé, c'est Diaz lui-même, parce qu'il n'a pas été récompensé comme il le devait, comme il le méritait. Il va continuer à travailler pour le roi, il va même superviser la construction des navires qui maintenant seront ceux de Vasco de Gama, ceux qui vont vraiment non seulement faire le tour de l'Afrique mais partir vers les Indes, mais il ne sera pas du voyage. Et ça doit être terrible de savoir que là-bas, au fond de l'océan Indien, il y a une petite île, il y a un endroit, il y a un cap que vous avez repéré et que c'est quelqu'un d'autre qui va le passer pour aller plus loin. Alors, il essaye de se venger à sa façon en prenant le second train, c'est-à-dire la seconde expédition qui va partir vers les Indes en 1500. Une expédition très importante qui est commandée par Cabral et la nouveauté, c'est qu'au lieu de faire le tour de l'Afrique en longeant les côtes, on l'a déjà vu, à cause de la première tempête, de sa tempête, on avait pris l'habitude d'aller très à l'intérieur pour des questions de courant, très à l'intérieur de l'Atlantique. Et lui, lors de cette expédition avec Cabral, va tout à coup découvrir le Brésil. C'est quelque chose de fantastique. Le Brésil était déjà au portugais, et nous verrons tout à l'heure pourquoi, mais c'est la première fois qu'on touchait les côtes brésiliennes avec un bateau portugais. Et là, on comprend la joie, bien sûr, et ils espéraient maintenant revenir sur le cap de Bonne-Espérance. Malheureusement, ils vont être pris dans une tempête en plein mois de mai. En venant directement de ce Brésil, ils s'approchaient de la pointe de l'Afrique, et le 23 mai, et ils vont tous être pris dans ces paquets de mer incroyables. Quatre bateaux vont faire naufrage sans qu'il soit possible de sauver un seul homme. C'est vrai que ce cap est très très difficile à passer. Et ces navires disparus, ben vous avez compris, dans ces quatre navires, il y avait celui de Bartolomé Diaz. Il va mourir à son poste. C'est ainsi le premier Européen qui navigua dans les eaux sud-africaines qui va y trouver bizarrement sa sépulture. Alors vous aurez compris que j'ai fait un saut dans le temps, puisque tout à l'heure nous étions à Lisbonne avec Diaz en 1488 et que j'ai déjà parlé de sa mort en 1500. Mais entre 1488 et 1500, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses en Europe, en Espagne et au Portugal en particulier. Or c'est justement, un peu par ironie de cette histoire, que les découvertes de celui dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de Christophe Colomb, vont être la cause des ennuis qui vont retarder pratiquement de 10 ans la poursuite des explorations portugaises. C'est pour ça qu'il y a ce grand retard. Je m'explique. Quand Jean II apprend la découverte par Colomb de toutes ces îles de l'Atlantique et qu'en 1493, donc à son retour, il proclame que ces terres qui sont dans la proximité des Açores, en fin de compte, appartiennent à l'Espagne, bah, c'est le scandale. Les Portugais ne sont pas d'accord. Eux, ils prétendent que c'est à eux. Logique. Puisque c'est près des Açores, ça leur appartient. Et il y a une querelle incroyable qui va avoir lieu entre le roi Jean et Ferdinand de Castille et qui sera réglée par un pape qui, lui, est un Borgia et qui est espagnol. Et c'est à partir de là. Et c'est à partir de là que nous aboutirons à ce fameux traité de Tordesillas qui a été signé en 1494. Je suis obligé de parler de date parce que tout se passe en quelques jours. Les deux pays vont accepter une sorte de ligne de marcation du nord au sud qui est établie à 370 lieues des îles du Cap-Vert. Donc les terres qui sont situées à l'ouest de cette ligne, elles reviennent toutes à l'Espagne. Et celles qui sont à l'est sont entièrement au Portugal. Or, on sait que la Terre est ronde, donc on vient de couper l'orange en deux. Et cet accord, il avait en tout cas le mérite provisoire d'éviter une véritable guerre, mais c'est sûrement un des traités les plus célèbres de l'histoire européenne. Parce que, vous imaginez l'ambiguïté qu'il y avait déjà dans ce traité, c'est de savoir laquelle des îles du Cap-Vert il fallait prendre, à commencer par là, puis ensuite, quelle était véritablement la longueur d'un mille. Enfin bon, on n'en finit plus. Mais ce qui est vrai, c'est que il a fallu un seul traité pour que tout à coup le Brésil, dont je vous parlais tout à l'heure, soit déjà portugais. C'est-à-dire qu'en 1494, sans que personne ne l'ait découvert, le Brésil est tombé dans l'escarcelle du roi du Portugal. Parce que simplement, si vous prenez cette ligne sur votre carte, vous allez voir que le renflement du Brésil déborde tellement dans l'Atlantique que toute cette tranche de l'Amérique du Sud se trouve du côté portugais. Alors vous avez le Brésil, toute l'Afrique, toutes les Indes et une bonne partie du Pacifique qui appartiennent d'ores et déjà au Portugal. Et tout le reste de l'Amérique et le début du Pacifique jusqu'aux Philippines, si vous voulez, jusqu'à Manille, cela appartient aux Espagnols. C'est quand même un traité qui a été d'une importance absolument fantastique sur l'histoire du monde. Alors maintenant, on change de roi. Là, en 1495, il y a un remplacement au Portugal et c'est Manuel Ier, qu'on va appeler le Fortuné, qui va hériter de tous ces projets grandioses qui avaient déjà pris cours, enfin qui étaient nés juste avant lui. Il va donner véritablement suite à la découverte de Diaz et il va lancer Vasco de Gama sur les mers à la découverte cette fois des Indes. Après 2 ans de préparatifs, Vasco de Gama réunit 4 vaisseaux en tout. Vasco de Gama, c'est un noble, hein, c'est quelqu'un qu'on a choisi volontairement parce qu'il était, un peu tout à la fois. Il était fils d'un gouverneur, il avait des talents de marin, des talents de diplomate, et ce qu'on voulait, c'est quelqu'un qui puisse traiter avec les potentats indiens, et il suffisait pas d'être simple marin, il fallait avoir toutes ces qualités à la fois, et Vasco de Gama les avait, Diaz ne les avait pas, c'était quelqu'un du peuple, c'était un bon marin, mais il n'avait aucun pouvoir politique et aucune qualité diplomatique. Alors maintenant, on part de Lisbonne en juillet 1497, et on va partir avec 3 ans de provisions, c'est vous dire à quel point on était prêt à faire un long voyage. Alors, il y avait des cartes, il y avait des instruments de navigation, on avait ces tables de déclinaison, on avait ces poteaux de pierre qui allaient permettre de marquer toutes les terres conquises. Au total, on était parti avec 170 hommes sur ces 4 navires. Alors, les voyages de Vasco de Gama, ils allaient avoir des retombées immédiates et beaucoup plus importantes que les voyages de Colomb, par exemple. Parce que Colomb, il avait dit qu'il trouverait le Japon, qu'il trouverait l'Inde, qu'il trouverait la Chine, mais il est arrivé sur des rivages que personne ne connaissait, et il n'y avait pas grand-chose au bout. Tandis que Gama, lui, il avait décidé d'aller voir les métropoles du commerce en Inde, et de créer des échanges qui seraient extrêmement lucratifs. Et c'est ce qu'il a fait. Il va donc véritablement remplacer, ou en tout cas dépasser parfois, les gens de Gênes ou les Vénitiens. C'est vraiment une promesse qui va être tenue également. On va naviguer pendant 36 jours. Gama va suivre un itinéraire qui exige beaucoup de finesse dans la navigation. Il va faire cette grande boucle à travers l'Atlantique Sud. Il va prendre la décision de ne pas serrer, il est le premier à le faire, je vous le disais tout à l'heure, de ne pas serrer ses côtes africaines. Et il va parcourir pratiquement 6000 km depuis les îles du Cap-Vert jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, qu'à l'époque on appelait encore le Cap des Tempêtes, et pour cause. Et finalement, il va atteindre, après 93 jours de mer, la baie de Sainte-Hélène, qui porte encore ce nom, et qui est un peu au nord de l'actuelle ville du Cap. Et puis là, il va maintenant tenter de toucher des musulmans. Ça, c'était l'idée de base. Il arrive au Mozambique, à Mombasa, à Malindi. Et là, il y a des problèmes. C'est pas si facile que ça. Mais ce qu'il cherche surtout, c'est un marin ou quelqu'un qui connaisse l'océan Indien. Et par chance, il va trouver quelqu'un, un pilote arabe, qui va le guider à travers tout l'océan. Et à Mozambique d'abord, à Mombasa ensuite, ce pilote va lui assigner des rendez-vous avec les sultans locaux. Et finalement, il va dénicher le véritable pilote qu'il lui fallait pour aller jusqu'à Calicut. Et ça, il va le faire en 23 jours seulement. C'est vous dire, au moment où il a trouvé la personne qu'il fallait, effectivement, les Arabes, qui connaissaient complètement cet océan, vont pouvoir trouver immédiatement la route la plus directe pour aller jusqu'aux Indes. Nous sommes arrivés maintenant à Calicut, et là, c'est après plusieurs mois de discussion avec le Samorin local, le roi de Calicut, que finalement Gama va repartir au mois d'août 1498. Il va se trouver tout de suite, là je parle d'aventure maritime parce que c'est important, il va se retrouver avec des vents contraires, il aura des problèmes avec tous les potentats arabes de la côte, il y aura surtout le scorbut qui va être épouvantable, et finalement, deux des quatre navires de l'expédition vont faire leur entrée à Lisbonne au mois de septembre 1499. Et sur 170 hommes qui étaient partis, il n'y en a que 55 qui sont rentrés. Simplement un chiffre comme celui-là vous donne non seulement l'importance, mais ce temps aussi incroyable de l'expédition et ses difficultés. Car lui, il a eu la chance peut-être de savourer les fruits de sa découverte. C'est une exception aussi dans les découvreurs. Vasco de Gama, il va pouvoir repartir en Asie. Il va en fait se rendre compte très vite qu'il a changé le cours de l'histoire, tant en Occident qu'en Orient. En 1502, il repart de Lisbonne avec toute une escadre. Il veut atteindre Calicut et en faire une colonie portugaise. Et près des côtes de Malabar, il trouve des gens, par exemple, qui ramènent des pèlerins de la Mecque. Vous savez que c'est la seule obligation, c'est la seule chose qui fait voyager les Arabes, qui a fait voyager les Arabes de façon extraordinaire, c'est ce pèlerinage. Et là, les Portugais exigent qu'on leur remette toutes les richesses qui se trouvent sur le navire. Bon, malheureusement, on ne s'exécute pas tout de suite. Eh bien, ça, c'est un comportement qui est assez curieux, parce qu'un compagnon de Gama nous raconte comment on a tué de sang-froid 380 femmes, enfants, marins, et qu'ils ont raflé tout ce qui se trouvait dans les cales, pris toutes les marchandises et toutes les valeurs, et puis ils ont brûlé carrément le bateau et tous ses occupants. Ils ont mis de la poudre à canon là-dessus et ils ont tout fait flamber. Ça, c'est assez curieux. Hein, ça nous montre aussi le comportement un peu agressif par rapport à l'infidèle. Je n'accuse pas Gama, je veux donner simplement cet exemple pour montrer que ce ne sont pas des anges et que c'est normal, entre guillemets, qu'ils ont tous peur de ces Arabes, donc la réaction est un peu viscérale, et il y a des cas dramatiques d'importance autant chez les Portugais que chez les Espagnols. Mais, arrivé à Calicut, il exige quelque chose de beaucoup plus grave. Il exige que toute la ville soit vidée des musulmans. C'est pas une chose évidente. Il veut vraiment en faire quelque chose de totalement portugais. Le souverain n'est pas d'accord. Et il fait arrêter au hasard les commerçants, des pêcheurs qui sont dans le port. Et il fait pendre tout le monde. Il y a vraiment des méthodes extrêmement draconiennes pour obtenir cette nouvelle colonie. Et il fait encore quelque chose de beaucoup plus terrible. Il demande qu'on découpe les gens en petits morceaux. Il les fait jeter, carrément à la mer. Et une autre partie, il l'a fait envoyer aux Samorines en disant qu'il n'a rien qu'à se faire un curry. Il y a quelque chose de tragique dans cette façon de réagir vis-à-vis des indigènes en Inde. Donc, il va laisser derrière lui une nouvelle colonie, si je peux dire, la première force navale avec 5 navires qui sera véritablement stationnée avec des Européens dans les eaux asiatiques. Je m'arrêterai peut-être là par rapport à toutes les étapes suivantes qui vont constituer ce que j'appellerais un empire portugais en Inde, mais le premier vice-roi des Indes va pouvoir lutter contre les Arabes de façon décisive. Celui qu'on connaît le mieux, c'est son successeur, Albuquerque, et il va même arriver jusqu'à Hormuz, il va prendre la porte du golfe Persique et il va faire de Goa véritablement la capitale de toutes les possessions portugaises. En 1510, on est à Malacca, en 1511, on est au Siam, on est aux Moluques, on est aux îles des Épices, on a touché la Chine. Les Portugais, on peut dire que maintenant, ils sont désormais les maîtres de tout l'océan Indien. C'est vite fait, hein ? Je veux dire par là qu'avec quelques coups bien marqués, quelques pendaisons, quelques incendies, finalement, quand vous regardez la carte, de voir ce qu'est l'océan Indien, en quelques années, les Portugais ont placer leurs comptoirs, des endroits clés, et tout leur appartient. Ça a des retombées incroyables. Parce que même ce que Venise, Gênes, avait obtenu, désormais tout passait en fait par le Portugal, par ce golfe persique, et pouvait remonter la mer Rouge, arriver par le Levant. Et c'est ce que faisaient maintenant les navires portugais, c'était l'inverse. C'était utiliser le sud, passer par le sud de l'Afrique et arriver par l'Atlantique. Donc les sultans d'Égypte avaient réussi à élever le cours de tous les produits qui étaient venus d'Orient, mais ils avaient surtout limité les envois. Ben, grâce aux Portugais, tout ce commerce s'était à nouveau ouvert. On peut dire que l'ouverture de cette route allait porter ses fruits, puisqu'en 1503, le poivre se vendait 5 fois moins cher, c'est un petit exemple, hein, à Lisbonne qu'à Venise. Donc même en faisant le tour de l'Afrique, économiquement parlant, ils avaient réussi. Alors c'est la richesse absolue, c'est-à-dire que le commerce entre Venise et l'Égypte, c'est fini. Tout va maintenant passer par le Portugal. Et on peut dire que le centre du commerce et surtout de la civilisation va se trouver tout à coup déplacé d'un seul coup de la Méditerranée à l'Atlantique. C'est comme aujourd'hui, on parle du changement entre l'Atlantique vers le Pacifique. Je crois que c'est quand même une chose importante pour l'aborder de cette manière, non seulement sous l'angle espagnol, ce que nous ferons peut-être encore à l'occasion, mais de voir que cette idée de l'océan Indien envahi par les Portugais, c'est également la gloire de l'Atlantique.
Thank you.
Voilà, pour aujourd'hui, notre aventure portugaise est terminée. Enfin, l'Empire est maintenant bien implanté dans cet océan Indien. On pourrait juste terminer sur la mort de Vasco de Gama. Là, nous sommes déjà en 1524. Ce Vasco de Gama qui va devenir amiral, gouverneur, vice-roi de ces nouvelles terres, de ces Indes. C'est là d'ailleurs qu'il va rendre son dernier souffle sur cet endroit qui a été quand même son endroit de gloire. Et la prochaine fois, ben, je parlerai peut-être de lieux un peu plus bizarres, c'est-à-dire ce que j'appellerais des peuples inconnus, des peuples imaginaires, des lieux que l'homme s'est inventé, qu'il a ressenti le besoin de placer sur une carte de géographie sans savoir si ça existait ou pas. Il y a l'Atlantide, il y a Cibola, les îles fabuleuses, le paradis terrestre, l'Éden, Gog et Magog. Tout cela jusqu'au XVIe siècle, et même des fois jusqu'au XVIIe siècle, on le retrouve encore sur les cartes. D'accord, les taches blanches disparaissent peu à peu, mais encore sur les bouts des cartes, soit dans le nord, soit dans le sud, soit encore sur un certain est ou un certain ouest, on met encore ces terres légendaires, ces peuples imaginaires, avec des gens à deux têtes, avec des têtes de chiens, etc. Alors je vous emmènerai dans un voyage qui est beaucoup plus imaginaire, c'est vrai, beaucoup plus rêveur aussi. C'est juste le début de cette renaissance. C'est le moment où l'homme finit d'être moyenâgeux et apprend enfin à visualiser son petit globe terrestre.